Salut Anne-Sophie, salut Raphaël.
Salut Marc.
Salut Marc.
On commence notre troisième épisode concernant le deep sea mining. En gros, ça consiste à récupérer les métaux précieux et rares qu'il y a au fond des océans, le deep sea mining. C'est un projet très inquiétant, hein. On a épuisé ce qu'il y avait sur Terre, donc maintenant on va chercher ce qu'il y a au fond des océans. Et ce n'est pas sans inquiéter les scientifiques et les gens comme vous qui relaient la voix des scientifiques. On a vu dans l'épisode précédent tous les impacts potentiels d'un tel projet. Aujourd'hui, on va éclairer un peu ce qui se passe, on va porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, on va porter un peu le projecteur sur les coulisses, sur ces coulisses un peu opaques, internationales, qui sous-tendent ces projets. Et donc la toute première question, toute bête, que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui régule tout ça dans le monde ?
Donc, comme tu l'as dit très bien dans le deuxième épisode, la plupart des ressources minérales qui intéressent les entreprises minières se situent au-delà des juridictions nationales, donc dans la haute mer. Donc, concrètement, c'est un peu le Far West, ça n'appartient à personne. Et du coup, il y a une entité qui est mandatée pour réguler, pour gérer l'exploitation minière en eau profonde. Elle s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, donc l'AIFM. On l'appelle aussi ICE, puisque c'est l'acronyme en anglais pour International Seabed Authority. C'est une entité qui est mandatée par l'ONU, donc par les Nations Unies, pour réguler les ressources minières de l'océan profond. Elle est basée à Kingston, en Jamaïque, et elle existe depuis 1994. Et ce qui est intéressant avec l'AIFM, c'est qu'elle est en fait investie d'un mandat qui est un peu contradictoire, puisqu'on lui demande à la fois d'assurer le développement des activités minières dans l'océan profond, donc en haute mer, et on lui demande aussi de protéger l'environnement marin et donc de s'autoréguler sur les impacts environnementaux et de limiter les impacts environnementaux des industriels miniers. Il n'y a aucune instance scientifique indépendante qui pourrait faire contrepoids. Et du coup, ça, c'est déjà un énorme problème, puisqu'on demande concrètement au loup de surveiller la bergerie. Et donc, ça soulève énormément de questions. Et ce qui fait que l'une des demandes des scientifiques, c'est une réforme institutionnelle de l'AIFM, puisqu'on ne peut pas demander aux industriels miniers de s'auto-réguler et de vérifier que leurs activités n'aient pas d'impact sur l'environnement. Puisque déjà, on a vu ce qu'ils ont fait sur Terre. Et deuxièmement, qui sera là à 5 000, 6 000 mètres de profondeur pour s'assurer qu'ils respectent bien leurs engagements environnementaux ? Bah, pas grand monde.
À ce stade, on ne l'a encore pas fait. Sans faire du shaming, on dit le deep sea mining, les industriels, tout ça, c'est très vague. Est-ce que vous avez tout simplement des noms de corporations précis, de gens qui s'intéressent à ça, qui lorgnent sur ces fonds marins ? Est-ce qu'on peut dire des noms de ces grandes compagnies minières ? Est-ce que certaines sont connues ?
Oui, tout à fait. Il y a déjà la liste qui est publique, qu'on peut retrouver sur le site de la Deep Sea Conservation Coalition, qui est une coalition de toutes les ONG et scientifiques qui travaillent sur le deep sea mining.
Pardon, alors je précise, c'est vraiment très bête, hein, mais qui travaillent sur le deep sea mining, qui essayent d'éclairer cette menace.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment une coalition de toutes les ONG et scientifiques qui sont positionnés, qui travaillent sur le sujet. Et donc, c'est une coalition d'experts qui a publié ces listes de manière publique. Et donc, pour faire un peu un tableau global, aujourd'hui, il y a 31 contrats d'exploration minière que l'AIFM a délivrés, avec 22 contractants. Donc, c'est à la fois des entreprises minières et des États, dont la France, qui a 2 contrats d'exploration minière actuellement à l'AIFM.
Qui sont nos amis ?
Distribués à l'Ifremer, il me semble.
Oui, exactement. L'État français et l'Ifremer, donc qui est un institut public mandaté par l'État pour explorer les nodules polymétalliques, du coup, dans 2 zones différentes de l'océan, mais on y reviendra peut-être juste après. Et sur ces 31 contrats d'exploration minière, il y en a 19 qui portent sur les nodules polymétalliques, donc ces petites concrétions de métaux dont on a parlé dans les épisodes précédents qui jonchent le plancher océanique, les fonds marins. Il y en a 7 qui portent sur les sulfures polymétalliques, donc celles qui sont présentes sur les évents hydrothermaux, exactement, sur ces fameuses cheminées sous-marines. Et 5 sur les encroûtements cobaltifères, donc ça, c'est ceux qu'on trouve sur les monts sous-marins. En fait, il y a une entreprise qui est vraiment motrice dans l'accélération des négociations pour ouvrir la phase d'exploitation minière. C'est une entreprise qui s'appelle The Metals Company, qui anciennement s'appelait Deep Green. Même si le nom peut paraître
rigolo.
C'est une entreprise minière canadienne et en fait, elle est sponsorisée par donc, l'État et par plusieurs autres États qui ont des intérêts économiques à aller miner le fond de l'océan. Et du coup, cette compagnie, The Metals Company, accélérait le rythme des négociations pour ouvrir la voie à l'exploitation minière de l'océan. Donc aujourd'hui, ils ne font que explorer les nodules polymétalliques. Et l'année prochaine, donc en juin 2023, à cause de la Metals Company et l'état de Nauru, qui est un état insulaire du Pacifique de moins de 10 000 habitants, qui se sont associés avec The Metals Company, ils ont activé une loi qui s'appelle la 2 Years Trigger Rule, ou la loi des 2 ans en français.
Déclenchement.
Ouais, la loi qui donne, à partir du moment où elle est activée, elle donne 2 ans à tous les États membres de l'AIFM, de l'Autorité internationale des fonds marins, pour définir les régulations qui vont mettre en place, ouvrir la voie à la phase d'exploitation. Et donc, elle a été activée l'année dernière, en juin 2021. Et donc, ce qui fait que la date butoir à laquelle pourrait démarrer la phase d'exploitation de l'océan profond, c'est juin 2023. Et du coup, c'est demain.
Raph, tu tenais à parler du code minier. En effet, c'est très éclairant. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes ?
Oui, donc rapidement, juste cette loi des 2 ans, cette loi de déclenchement des 2 ans, ce qu'elle implique concrètement, c'est-à-dire que l'AIFM doit pondre dans cette période de 2 ans le code minier, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des règles, des régulations qui vont encadrer l'industrie, c'est-à-dire que ça va déterminer ce que les industriels, les entreprises vont avoir le droit ou pas de faire dans les fonds marins. Donc c'est un code qui est essentiel parce que c'est lui qui va incorporer toutes les contraintes environnementales de cette industrie et s'assurer que si l'exploitation doit en effet commencer, elle soit faite dans des conditions qui limitent le plus possible les dégâts. Sauf que, on le sait aujourd'hui, grâce aux publications scientifiques qui sont sorties, on n'a pas assez de connaissances sur les écosystèmes profonds pour envisager une exploitation dès juin 2023, pour connaître précisément les impacts qu'on va avoir. Donc cette loi de déclenchement, elle dit en juin 2023, il faut avoir un code minier qui est prêt. Si le code minier n'est pas prêt, il faut adopter une version temporaire, une version provisoire de ce code jusqu'à ce qu'il soit fini. Alors que d'un autre côté, on a les scientifiques qui nous disent d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on n'aura toujours pas assez de données pour comprendre les impacts qu'on a sur les écosystèmes profonds.
Donc il y a une course contre la montre qui est engagée, on l'a bien compris. Quelles sont les zones qui sont concernées par ces explorations ?
Alors il faut savoir que les écosystèmes abyssaux qui sont visés, entre guillemets, par l'industrie minière, ils sont présents dans le monde entier. Donc il y en a vraiment partout, mais il y a une zone qui intéresse plus particulièrement les industriels miniers. C'est une zone qui s'appelle la zone Clarion-Clipperton. C'est une aire de l'océan qui est située à l'ouest de Hawaï, donc dans l'océan Pacifique, et qui couvre 1,7 million de kilomètres carrés. Donc c'est une zone absolument énorme qui est plus grande que l'Europe en termes d'échelle et qui regorge de nodules polymétalliques notamment. Donc c'est là où les industriels miniers veulent démarrer en fait les premières phases d'exploitation.
C'est l'Eldorado, quoi.
Ouais, un petit peu. Et sur les permis d'exploration aujourd'hui qui ont été déjà délivrés, les entreprises minières sont déjà dans la zone Clipperton en train d'envoyer des drones sous-marins et des instruments de recherche pour aller voir dans quelle quantité ils peuvent aller récupérer les nodules polymétalliques dans cette zone. Et donc ça aurait un impact, et plus précisément et très très directement, sur les îles du Pacifique, qui sont aujourd'hui les premières à se lever. Pour la plupart, évidemment, ce n'est pas uniforme, mais il y a beaucoup d'îles du Pacifique, d'états insulaires du Pacifique qui se lèvent contre le deep sea mining parce qu'ils sont justement sur les lignes de front de ces impacts.
Anne-Sophie, c'est peut-être le moment de détailler un peu le fonctionnement de l'AIFM, cette autorité de régulation, ce loup dans la bergerie dont tu as parlé tout à l'heure. Il semblerait qu'il y ait quelques zones d'ombre et que notamment le grand patron de ça, qui s'appelle Monsieur Michael Lodge, concentre toute votre affection.
C'est un grand personnage, on va dire ça comme ça. En fait, le principal problème avec le mode de fonctionnement de l'AIFM, c'est déjà qu'elle soit seule à assumer la responsabilité de la régulation des activités minières et de la protection de l'environnement, ce qui paraît un peu complètement contradictoire. Et donc, il n'y a pas encore de scientifiques indépendants qui soient capables de réguler et de faire contrepoids, en fait, aux entreprises minières et aux États qui les sponsorisent. Et donc, la manière dont ils fonctionnent, l'AIFM, c'est en fait des 167 États membres, plus l'Union européenne, qui fait également partie des négociations. La France également fait partie de ces États membres, évidemment. Et en fait, ils se réunissent plusieurs fois par an, donc à Kingston, en Jamaïque, là où est basée l'AIFM. Et il y a deux types de réunions, donc de négociations, qui ont lieu à Kingston. Les premières, c'est les réunions du conseil scientifique, légal et technique. Donc, en fait, ils négocient le code minier. Donc, paragraphe par paragraphe, ils vont mettre en place. Chaque État va en fait faire des interventions pour ajuster le code minier selon ses intérêts, on va dire. Et le deuxième type de réunion, c'est les assemblées, donc l'assemblée générale de l'AIFM, donc avec l'ensemble des 167 États membres plus l'Union européenne. Sachant que les réunions du Conseil se font en petits groupes, c'est seulement 37 États qui font partie du Conseil. La France en fait partie, donc il y a un poids énorme du rôle français, on va dire, dans les négociations. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'activation de la loi des deux ans, donc la Two Years Trigger Rule en juin 2021, on voit que l'AIFM accélère la cadence de ces réunions. Donc normalement, avant juin 2021, il y avait une réunion par an du Conseil et une réunion par an de l'Assemblée Générale. Et aujourd'hui, ils font 4 réunions par an du Conseil, donc pour se dépêcher d'édicter leur fameux code minier et donc aboutir à la phase d'exploitation en juin 2023. Et l'Assemblée Générale de l'AIFM, qui est d'ailleurs en ce moment même, c'est du 1er au 5 août 2022. Et donc c'est des moments absolument cruciaux, puisque là, cette réunion de l'Assemblée, c'est la dernière concrètement avant la date butoir, la fameuse date butoir de juin 2023. Donc c'est là que toutes les voix peuvent s'élever pour imposer un moratoire et refuser l'édiction du code minier, en fait.
Raph, concrètement, qui sont les gagnants et les perdants du point de vue des pays de ce qui vient d'être dit ?
Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est utile de commencer par un chiffre. Donc c'est l'AIFM qui est en charge de répartir les bénéfices de cette industrie. À l'heure actuelle, 70% des bénéfices générés par l'exploitation minière des fonds marins reviendront aux compagnies privées qui minent. Donc ce sont souvent des entreprises occidentales. Ça laisse les pays africains, les pays du continent africain, avec seulement 100 000 $ par an et par pays. Et donc il y a 47 pays africains qui se sont prononcés contre ce départage parce qu'ils estiment que c'est inégal, sachant qu'il y a énormément de minerais qui se trouvent sur leur territoire ou aux abords de leur territoire. Donc en fait, ce qu'on trouve dans cette industrie, c'est un schéma qu'on retrouve dans énormément d'autres industries, comme par exemple la surpêche, c'est-à-dire que c'est une petite concentration d'entreprises privées qui accaparent les ressources naturelles, avec une dynamique nord-sud qui est super intéressante, c'est-à-dire qu'on va miner des minéraux qui sont disproportionnellement consommés dans les pays occidentaux, parce que les batteries, etc., c'est surtout les pays riches qui les consomment, avec des impacts qui vont être essentiellement sur les pays du sud, qui sont les premiers à se lever contre cette industrie, et qui vont se retrouver avec des métaux lourds dans leurs poissons, alors qu'ils n'ont rien demandé.
Alors, quand on a préparé cette émission, il y a des mots qui sont revenus dans nos notes et dans notre sommaire. C'est opacité, transparence, enfin le contraire de la transparence, et puis surtout ce personnage très sulfureux qui est le secrétaire général de l'AIFM, qui s'appelle Michael Lodge. Tu as le choix par quoi tu veux commencer, Anne-Sophie.
Déjà, pour parler de la transparence, en fait, c'est un des problèmes structurels de l'AIFM, c'est que, en fait, il tire un petit peu parti du fait que ce sujet soit très très peu connu du grand public et soit vraiment resté dans les sphères scientifiques et même les sphères des scientifiques spécialistes des abysses, donc vraiment des petites niches, pour discuter, pour négocier du futur de l'océan profond, donc du futur de l'humanité, entre portes closes. Et là, c'est la première année où les réunions du Conseil et de l'AIFM et de l'Assemblée de l'AIFM se passe en version hybride, donc c'est-à-dire que des personnes tierces peuvent y accéder via une web TV. Donc c'est la première année où ils se sont enfin un petit peu ouverts, ce qui ne règle pas évidemment les problèmes de transparence et ce qui prouve aussi l'intérêt de porter ces combats, puisque plus le grand public, plus la presse en parle, plus le sujet est mis sur le devant de la scène, plus ça les fait bouger. Après, en dehors de ça, le fonctionnement du conseil, par exemple, de l'AIFM, se fait entre donc, un nombre très très réduit de pays, c'est une poignée d'États, c'est 37 États dans le monde.
Sur 200, on rappelle.
Qui édicte sur 167 plus l'Union européenne, quasiment 200, qui édicte du coup le code minier qui va réguler les activités minières, enfin les activités des entreprises minières. Et il y a très très peu de place qui est faite aux ONG, à la presse. Les journalistes qui veulent assister aux conférences se font refuser l'accès. C'est ce qui est arrivé dans les dernières réunions du Conseil et de l'Assemblée. Après, il y a énormément d'autres exemples. Donc, je vous passe tous les côtés un peu scandaleux de les micros coupés, les scientifiques qui se font couper la parole en disant « Non, mais on verra ça plus tard ». Enfin, vraiment des modes de fonctionnement archaïques. En fait, c'est complètement médiéval. La manière dont fonctionne cette institution est complètement médiévale. Et du coup, ça nous emmène à ce fameux Michael Lodge, qui est un peu la personne à la tête de l'autorité internationale des fonds marins. En gros, son principal but, c'est de tout faire pour que l'exploitation se fasse et pour faire taire les voix qui s'élèvent contre. Donc, on peut raconter plein d'exemples à Lisbonne, où on était du coup jeunes activistes qui venaient assister aux side events, aux événements qui étaient organisés par l'AIFM. Et on a énormément d'exemples où, en gros, ils nous censuraient complètement, ils ne prenaient pas nos questions, ils faisaient bien en sorte qu'on ne soit pas écoutés. Et donc, c'est nous, mais c'est aussi tous les scientifiques, toutes les ONG, tous les observateurs de leur négociation, de leur réunion. Et récemment, il y a eu une fuite de documents de l'AIFM qui révèle l'ampleur de la corruption qui est mise en place par Michael Lodge à l'échelle interne. Donc, c'est à la fois du harcèlement des salariés, c'est du détournement de fonds, c'est des emplois fictifs. Enfin, c'est un melting pot de choses, mais on ne peut plus sombre et crasse, qui viennent en fait étayer plutôt le dossier déjà très très lourd du manque de transparence de l'AIFM. Et donc c'est pour ça que les scientifiques appellent et les ONG appellent à une réforme institutionnelle de l'AIFM, puisqu'on ne peut pas discuter du futur de l'océan profond sans transparence, sans prendre en compte l'avis des communautés locales qui seraient les premières impactées et l'avis des générations futures, donc notamment des jeunes.
C'est un peu à l'image de ce qui se passe sur plein d'autres dossiers aujourd'hui. Je vais avoir l'air un peu idiot, un peu naïf en disant ça, mais c'est des gens, c'est des groupements d'intérêts qui s'accaparent, Raph l'a bien dit tout à l'heure, des ressources qui sont communes, qui sont essentielles, et qui décident, entre amis, de comment ils vont se répartir la manne qui, du coup, va affecter leurs propres enfants, finalement.
Exactement, tout à fait.
Et donc, ça paraît quand même incroyable que de tels fonctionnements échappent au contrôle du reste de la planète.
Exactement.
Ça paraît quand même incroyable. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Raph, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Rapidement, pour donner un exemple concret de l'ampleur du scandale, en fait, le mec dans l'AIFM a employé sa femme, déjà, ce qui en soi n'est pas un problème.
Fillon.
En passant outre les processus de recrutement compétitif, déjà, donc c'est le premier problème. Il y a des notes de frais de repas qu'ils font entre eux pour discuter de questions administratives qui sont chiffrées à 4 fois les taux de remboursement actuels. Pour donner un exemple des détournements de fonds, c'est un fonctionnement qui est juste complètement scandaleux, dont personne ne sait rien. C'est l'institution qui est en charge de réguler une des industries qui va déterminer en partie le futur de l'humanité. Donc il faut quand même s'imaginer l'absurdité du truc, quoi.
Et il y a aussi un papier qui a été publié en mars 2022, qui a été mené par une biologiste absolument incroyable qu'on adore, qui s'appelle Diva Amon, et que je vous invite tous et toutes d'ailleurs à suivre sur les réseaux parce qu'elle est absolument incroyable. Donc c'est une spécialiste des abysses qui a publié un papier avec 30 autres spécialistes des fonds abyssaux et expertes en politique marine, qui ont mis en garde l'Autorité internationale des fonds marins sur le manque de connaissances énormes scientifiques sur à la fois les écosystèmes abyssaux et les impacts que leurs activités pourraient avoir, en disant « vous ne pouvez pas continuer à vous baser sur des faits scientifiques pour dire on va autoriser la phase d'exploitation à commencer ».
Rappelle le nom de cette dame.
C'est Diva Amon, A-M-O-N. Elle travaille notamment avec National Geographic, qui a fait plusieurs documentaires, séries documentaires sur elle. Elle est absolument incroyable.
Sur elle ou avec elle ?
Les deux. En fait, il y a plusieurs histoires qui parlent de elle, son engagement, sa vie, etc. Et elle a fait plein de différentes séries, dont la dernière avec Will Smith, qu'elle a emmené dans les abysses, dans son petit submersible.
Le gifleur.
Oui, c'était avant la gifle.
C'était avant la gifle, d'accord.
C'était avant la gifle, voilà. Mais ouais, elle est très active sur les réseaux sociaux, évidemment, dans toutes les négociations. Donc, elle est incroyable, donc allez la suivre.
Bon, Diva, d'accord, c'est bien noté. Raph, est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose concernant cet épisode ?
Pour finir, on a bien établi la catastrophe écologique et sociale que représente cette industrie. Juste peut-être pour se mettre dans la peau d'industriels qui ne raisonnent qu'à travers le prisme des bénéfices économiques, même d'un point de vue économique, l'exploitation minière des fonds marins est une absurdité. Parce qu'on a le choix entre exploiter durablement un écosystème pour des raisons de pêche ou d'industrie pharmaceutique, etc. Donc c'est-à-dire de l'exploiter d'une façon à ce qu'on puisse en tirer des bénéfices pendant des décennies. Ou alors on a le choix d'envoyer une moissonneuse-batteuse qui récolte tout. À la fin, il n'y a plus rien. Ça met des millions d'années à se régénérer. Et on en tire des batteries, des téléphones, des véhicules électriques, etc. Mais des bénéfices à court terme. Donc même d'un point de vue économique, en fait, en termes de si on raisonne juste à travers cette logique-là, c'est absurde.
Mais tu te doutes bien que tous ces gens-là, accaparateurs, etc., qui sont tous un peu la même engeance partout, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est le fric maintenant, et ce qui se passe après eux, le déluge, évidemment.
Mais ces gens-là, bien entendu, mais même d'un point de vue, on peut se focaliser sur les autres industriels, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la surpêche, etc., qui est extrêmement puissante également, qui, je crois d'ailleurs, se sont opposés en partie à cette industrie également. Et d'ailleurs, il y a des grandes marques comme Google, Facebook, qui ont refusé de récupérer des métaux des fonds marins parce que justement, enfin, il n'y a aucune logique économique derrière, il n'y a aucun modèle économique viable.
Pour compléter ce que dit Raph, c'est pas comme si on n'avait pas de recul historique sur les dommages d'une économie extractiviste. Ça fait des années qu'on le sait, que les scientifiques disent que les ressources en minerais ne sont pas renouvelables. Par définition, elles vont s'épuiser et puis il n'y aura plus rien. Donc, ce serait quand même peut-être l'occasion d'apprendre de nos erreurs et de mettre en place cette fameuse économie circulaire pour permettre de recycler déjà les métaux qui sont présents sur Terre et accessoirement préserver notre dernier puits de carbone encore fonctionnel.
Et moi, j'ai presque envie de dire de décroissance, mais c'est un gros mot, donc il ne faut pas le dire. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'engage et que notamment on met en avant l'urgence de mettre en place au moins un moratoire international sur cette industrie pour au moins 10-15 ans.
Sur ces bonnes paroles s'achève notre troisième épisode. On va justement détailler votre combat dans le dernier, voir ce que vous faites, ce que vous proposez. On rappelle avec toutes ces assos françaises, avec des activistes connus comme Camille Etienne qu'on salue, qui est votre grande copine. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Salut.
Salut, merci beaucoup.
Salut Marc, merci.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?